Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Burger Ring. Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game. Les amis, le Burger Ring numéro 50 a été un succès énorme. C'est le podcast, le troisième podcast le plus écouté de ma chaîne. Il a eu vraiment, vraiment beaucoup de succès. Évidemment, vous aimez le sang, vous aimez le clash. Bon, je le dis de suite, cette chaîne ne va pas se transformer en chaîne de clash. Parce que c'est un exercice qui est beaucoup trop facile pour moi et je trouve que c'est assez vil de vivre dessus. C'était juste une nécessité de remettre les pendules à l'heure parce que vous savez, je ne réponds que très rarement aux vitupérations tweetesques. Mais il y a un moment où, voilà, quand on me calomnie, il faut que je rappelle que si je suis là où j'en suis, c'est que je ne suis pas la bête la plus facile à chasser du bestiaire. Donc, je me défends. Et il fallait que je le fasse. Donc, le podcast le plus écouté de la chaîne, c'est l'Ocean Gate. Rappelez-vous, voilà, c'est un de ceux qui vous a le plus plu. Il est à 3,5 et quelques millions d'écoutes. Vous avez ensuite le podcast sur la religion qui avait très très bien marché, qui est à 2,8 millions d'écoutes. Et le podcast sur AC est à 2,5 et quelques millions d'écoutes la dernière fois que j'ai regardé. Donc c'est vraiment trois énormes succès de la chaîne. Bon, le clash, je m'y attendais, hein, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Mais voilà, je vous dis, ça va pas devenir la norme. Hein. J'ai fait ça parce que j'ai été attaqué de manière très vile. Et à un moment, faut pas non plus laisser faire n'importe quoi. Et il faut que le Seigneur descende de son donjon pour aller mettre des claques dans la nuque des gueux. Bon, c'est ce que j'expliquais. Hein. Enfin, vraiment, il y a eu toute une campagne de dénigrement. J'étais à 140 000 abonnés, je suis à 142 000 abonnés actuellement sur Instagram. Mon Patreon ne désemplit pas. Bon, voilà, je veux dire, arrêtez de penser que Twitter, c'est l'opinion publique. Twitter, c'est l'opinion des gens qui ont le temps d'aller sur Twitter. Puis après, il y a les vrais gens, ceux qui ont un métier et qui eux, ne sont pas touchés par ces discours. Et d'ailleurs, ça fait un prisme déformant un petit peu pour mes adversaires parce que ils ont tendance à penser que la concentration de haters sur Twitter est représentative de l'opinion générale. Et après, ils allient fine parce qu'ils voient les scores de mes vidéos, ils voient à quel point on est suivi et aimé, à quel point les gens ont la gentillesse de nous soutenir quand on sort des BD avec Marceau et tout. Donc, à chaque fois, ils tombent des nues, ils ont l'impression d'avoir marqué des points, et au final, ils se rendent compte que ça n'a strictement rien changé dans le nombre d'abonnés que j'ai et dans l'opinion des gens qui me soutiennent. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'il faut que je leur explique, hein, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait 10 ans que je travaille, il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils suivent mon travail. Donc, ils me connaissent, et ils savent faire le tri entre des informations viables et des informations erronées ou calomnieuse, voilà. Donc, ça n'a que très très peu d'effet sur les gens qui m'estiment et me suivent vraiment, voilà. Donc, c'est à chaque fois, c'est peine perdue, mes détracteurs ne le comprennent pas, et puis ils s'en prennent à moi de manière ignominieuse. Plus, évidemment, je suis soutenu par les gens qui connaissent mon travail et qui sont choqués de voir la façon très vile dont je suis traité, et d'ailleurs, je vous remercie pour ça. C'est vraiment très très plaisant d'avoir un public qui fait du discernement, voilà. Et ça, c'est parce que vous me suivez depuis très très longtemps, vous connaissez mon travail, vous me connaissez, vous connaissez ma personnalité, même si évidemment il faut toujours se méfier parce que il y a une apparence publique, ça vaut pour tout le monde, et il y a une apparence privée. Moi, je suis dans le privé, je suis pas comme en podcast, je force le trait. En privé, je suis des fois beaucoup plus tranquille que je peux le paraître en podcast. Voilà, il faut pas croire que je suis tout le temps tout azimut comme j'ai l'air de l'être en podcast. C'est vraiment un rendez-vous. C'est un exercice que j'aime beaucoup, donc j'ai un enthousiasme spécial quand je fais les podcasts. Je suis pas aussi enthousiaste dans la vie de tous les jours. Je vis dans le même monde que vous, qui est en train de s'écrouler, c'est-à-dire l'Occident de 2025. Donc j'ai pas tout le temps la pêche que je peux afficher en podcast, voilà. Donc aussi, faut se méfier de ça, évidemment. Mais après, sur les grands principes et sur les adhésions esthétiques et morales que j'ai, ça ne change pas, que ce soit en podcast ou dans la vie de tous les jours, voilà. Bon, donc du coup, j'ai pu compter sur votre discernement et je vous en remercie. Ça, c'est vraiment très agréable aussi d'avoir un public comme ça parce que ça permet aussi de remettre en place un peu les détracteurs que j'ai qui s'aperçoivent que leur portée est extrêmement limitée. Donc voilà, je tenais à vous remercier. Et ensuite, je voulais faire une rectification parce que justement, je ne veux pas devenir calomnieux comme mes adversaires. Baptiste Marché ne fait pas partie du body count de AC. Hein, j'en parlais dans le podcast numéro 50 qui d'ailleurs a été censuré et est trouvable sur d'autres plateformes de podcast. Hein. Vous marquez Burger King 50, vous le trouverez sur plein de sur Google, vous le trouverez sur plein de plateformes qui sont pas. Je sais pas si Deezer là ou Apple Podcast l'ont aussi censuré comme Spotify, mais dans tous les cas, c'est un podcast qui est trouvable. Hein. Vous tapez le nom, vous tapez donc Burger King 50 podcast, vous allez tomber sur des plateformes qui ne sont pas sujettes à la censure. Et de toute façon, je pense qu'il est trouvable sur Odyssée ou sur YouTube dans tous les cas. Voilà. Donc de toute façon, il y aura une trace de ce podcast pour toujours. Ce n'est pas moi qui l'ai supprimé, hein, il a été censuré par Spotify. Voilà. Il a quand même fait 2,5 millions d'écoutes, je crois, au dernier moment où je l'ai regardé. Donc 2,5 millions et quelques. Donc voilà, c'est vraiment un énorme succès et je vous remercie d'avoir tous été aussi attentifs à ma défense, voilà. Merci beaucoup, les amis. Donc voilà. On va passer au podcast 51, le podcast d'aujourd'hui, parce que j'ai eu une semaine extrêmement riche. Je me suis récemment remis en couple et donc avec ma compagne, je suis parti visiter la fabuleuse ville de Tolède. Vous m'avez beaucoup demandé d'où sortaient les stories que je vous faisais. Parce que vous avez aimé ce que j'ai filmé, donc que ce soit l'architecture ou les tableaux que je vous ai montrés, parce que je suis un grand fan de peinture, donc dès qu'il y a un musée, enfin de peinture du siècle d'or, hein, et plus largement de peinture à la fois médiévale jusqu'à la fin de la Renaissance. Il y a certaines peintures du 19e que j'aime beaucoup aussi, mais vraiment ma période préférée, c'est les peintres du siècle d'or espagnol, les peintres italiens, les peintres hollandais de la Renaissance, les grands maîtres hollandais, voilà, les Rubens, les Holbein, et Holbein le Jeune, le Gréco pour les peintres espagnols, Velázquez. Dans les peintres français, c'est surtout les peintres du 19e qui sont absolument merveilleux. Delacroix en tête, hein. Delacroix était un peintre qui a fait des choses absolument incroyables. Le radeau de la Méduse, pour ceux qui connaissent pas, allez voir ce tableau, il est vraiment absolument sublime. Quelques peintres italiens à voir aussi, c'est le Caravage, le Titien qui ont fait des choses absolument merveilleuses aussi, parmi d'autres, hein. Vous avez aussi Michelangelo, et bien d'autres, voilà. Et donc, dans les peintres espagnols, puisque là, je viens d'Espagne actuellement, donc c'est Le Greco et Velázquez. À Tolède, c'est le fief du Gréco, donc j'ai pu voir de nombreuses peintures du Gréco. Bon, c'est absolument merveilleux. Vous avez l'enterrement du comte d'Orgaz qui est encore et toujours dans une église, qui est une peinture absolument monumentale. Vous pouvez visiter l'église à côté, c'est celle que j'ai filmée où il y avait une exposition sur l'IVG, tout ça et tout, à l'intérieur de l'église. Enfin, c'était vraiment magnifique, Tolède. Très très beau. Et puis ensuite, je suis allé dans une deuxième ville qui s'appelle Ségovie. Donc Tolède, c'est la ville de la région de Castille Nouvelle, Castilla-La Mancha, qui est la plus près de Madrid. Vous avez Madrid qui fait la jonction avec l'autre Castille, la vieille Castille, Castilla y León, où vous avez la ville, alors vous avez Burgos, Avila, vous avez Salamanca, vous avez Ségovia. Il y a un aqueduc romain à Ségovie en français. Et donc je suis allé à Ségovie visiter l'Alcazar de Ségovie, qui est à la fois un musée médiéval et un musée de l'Académie d'artillerie du 19e siècle, avec notamment un monument dédié aux défenseurs de l'Alcazar qui ont défendu l'Alcazar contre l'avancée des troupes de Napoléon. Puisque vous savez que la dernière guerre contre un étranger sur le sol espagnol, c'est contre les Français, avec les guerres napoléoniennes. Voilà. Les Espagnols n'ont pas eu d'invasion sur leur propre territoire depuis les guerres napoléoniennes. Donc les derniers monuments aux morts en Espagne, c'est pas parce que les Allemands c'est Napoléon. Donc c'est assez rigolo, parce que c'est vraiment très différent de ce qu'on a en France avec les monuments aux poilus et les monuments à la Seconde Guerre mondiale, puis la guerre d'Algérie. Bon bref, c'est assez curieux en Europe de voir un pays qui n'a fait aucune des deux guerres mondiales, parce qu'il avait ses propres conflits à ces moments-là. Alors la guerre civile pour 39-45, juste avant la guerre de 39-45, et les guerres coloniales pour l'Espagne pendant la guerre de 14-18. Bref, donc très très beau voyage. Alors
Bon, Tolède, si vous voulez, vous en prenez plein la gueule. Donc, c'est la ville présentée comme étant la ville des trois cultures, puisqu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Espagne était, tout comme la France, sous quand l'Empire romain s'est délité, vous avez eu des invasions barbares. Alors, vous avez les Visigoths qui sont descendus dans le sud de la France, donc tout ce qui actuellement est l'Occitanie, donc du sud-est et sud-ouest, et une partie du nord de l'Espagne, jusqu'au sud où vous aviez les Vandales. Voilà, les Vandales qui étaient, eux, entre l'Espagne et l'Afrique du Nord. Bon. Et dans le nord de la France, vous aviez le royaume des Francs, donc qui englobait... Alors les Francs, c'est une tribu germanique qui englobe une partie de l'Allemagne actuelle, la Belgique, d'où est originaire d'ailleurs, d'où sont originaires certains de nos rois de France, et le nord de la France, voilà. Donc si vous voulez, Clovis, Charlemagne, Charles Martel étaient tous des Francs, qui étaient en fait des Francaliens, qui étaient donc une tribu germanique qui se battait d'ailleurs contre d'autres tribus germaniques. Et vous avez eu une très très grande bataille vraiment au crépuscule de l'Empire romain, au champ catalonique, où vous aviez des Visigoths alliés à des Francs, alliés à des Romains, alors pas des Francaliens, hein, mais alliés à des Romains contre les Huns, qui était une autre tribu germanique qui venait en fait, qui était un mélange de cavaliers à la fois mongols et de germains. Voilà, bon, c'est là je vous simplifie les choses de manière extrêmement caricaturale, mais grosso modo c'est ça. Donc à la fin de l'Empire romain, les Romains en fait étaient entourés de barbares et ils prenaient des barbares pour alliés pour lutter contre d'autres barbares. Et c'est ce qui a en fait provoqué la chute de l'Empire romain, c'est que ils avaient de plus en plus d'alliés barbares et les barbares étaient tellement nombreux qu'à la fin, Rome ne pouvait plus... elle s'était séparée en deux. Vous aviez la Rome grecque, c'est-à-dire Byzance, et la Rome romaine, la première, c'est-à-dire l'italienne. Et même si à l'époque, le mot italien ne veut rien dire, puisque la nation italienne ne s'est fait que bien plus tard, au 19e siècle, avec Garibaldi. Mais bon, bref, ce que je veux vous dire, c'est qu'on était donc dans une circonstance d'assaut de barbares de toutes parts. Donc vous aviez les Francs, vous aviez un petit peu plus tard les Vikings, vous aviez les Huns, vous aviez les Vandales, vous aviez les Angles, vous aviez les Saxons, vous aviez voilà tout les Ostrogoths qui étaient les cousins des Visigoths, vous aviez dans les Alpes les Burgondes qui sont encore d'autres barbares germaniques, et c'est pour ça d'ailleurs que tous les rois européens ont des ascendances germaniques en fait, hein. Les lignées des rois européens, quand vous remontez, ce sont des lignées de barbares germains, et c'est le cas pour la France. Les premiers rois français n'étaient pas des rois qui étaient nés sur le territoire actuel de la France. Voilà. Donc la France est marquée par l'art des Francs. L'Espagne elle est marquée par l'art des Visigoths, tout comme le Sud-Ouest, qui sont un type de barbares qui était très admiratifs de Rome et qui voulaient vraiment essayer de ressembler aux Romains. Et donc, en fait, ces barbares occupaient l'Espagne, ils occupaient le sud de la France, les Francs ont fait la guerre aux Visigoths qui se sont complètement rapatriés en Espagne. Et là, puisque les deux capitales du royaume Visigoth, ça a été Toulouse, donc en France, et Tolède, en Espagne, voilà, pendant plus de 3 siècles et demi. Donc, si vous voulez, ça me fait rire quand il y a des mecs qui m'expliquent que, les Français et les Espagnols sont deux races complètement différentes. Évidemment qu'il y a des différences génétiques, c'est sûr, mais quand vous prenez des gens qui sont au sud de la France, dans les Pyrénées, et au nord de l'Espagne, dans les Pyrénées, c'est la même race. Hein. Je veux dire, d'une vallée à l'autre, c'est exactement le même plot génétique. Donc, si vous voulez, les frontières restent quand même, sur le plan génétique, je parle, tout à fait relatives. Voilà, entre un Alsacien et un Allemand qui se trouve de l'autre côté de la frontière, à un village qui se trouve à 7 km d'un village algérien, alsacien, vous avez vraiment très très peu de différence. Voilà. Donc, il faut aussi, l'ethno-racialisme ne vaut que pour la majorité, mais aux extrémités, si vous avez, des gens très très différents. Et les Basques, génétiquement, n'ont rien à voir avec les Lillois, qui ont un peu de sang flamand, et qui n'ont rien à voir avec les Phocéens, qui ont beaucoup de sang grec et italien, quoi, à Marseille. Donc, si vous voulez, c'est vraiment des peuples différents, mais qui sont unis après par un roi, et par une adhésion ou des fois des conquêtes qui se sont faites par le domaine royal des Francs, le palais royal des Francs. Donc les Francs, petit à petit, en fait, ont réalisé des conquêtes et ont fini par agglomérer tout le territoire français, enfin une grande partie du territoire français actuel, au Royaume de France. Voilà. Et ça a été le cas de l'Occitanie jusqu'au... Elle n'était pas française jusqu'au XIIIe siècle. Et à partir du début du XIIIe siècle, il y a eu ce qu'on appelle la croisade des Albigeois, qui a fait que la France, que l'Occitanie est devenue une partie du Royaume de France. Voilà. Mais avant, c'était un autre pays avec une autre langue et d'autres mœurs. Donc, les questions de nationalisme ont été quand même beaucoup fabriquées à partir du 19e. Avant ça, on est vraiment... les régions sont des petits pays. Hein, voilà. Les régions sont des petits pays en soi. Et c'est vraiment à partir, on va dire... Allez, non, 19e, il y a l'idée de la nation avec le roman national moderne. Avant ça, quand même, vous avez à la Renaissance... À partir de François Ier, un sentiment d'appartenir à un peuple, malgré les différences, ça remonterait plutôt à François Ier, voilà. Le premier roi des Français. Le premier roi des Français qui se pense français en tant que tel, voilà. On pourrait dire ça, même si c'est tout à fait discutable. Bon, bref, je vais pas partir dans un truc trop long. Et donc, en Espagne, à ce moment-là, à la fin de l'Empire romain, donc c'est vraiment la fin du 5e siècle, vous avez les Visigoths qui règnent sur la péninsule avec d'autres barbares, mais c'est eux qui ont la plus grosse part du gâteau, et ils sont en guerre civile. Et donc vous avez les Arabes. Alors les Arabes, c'est un bien grand mot. Les Arabes ont d'abord soumis les tribus du nord de l'Afrique, d'accord ? Ils sont arrivés chez les Berbères, ils ont fait des guerres de conquête, ont ensuite unifié les Berbères et ont, grâce aux Berbères, envahi la péninsule ibérique. Donc essentiellement avec des Zénètes qui étaient des cavaliers marocain en fait. Hein. Alors à l'époque, la carte du Maroc, elle n'avait pas été amputée par le recartographiage colonial. Et donc en fait, le Maroc était beaucoup plus grand que ce qu'il est actuellement. Parce qu'en fait, le Maroc a été amputé d'une très grande partie de son territoire par le découpage colonial. Si vous voulez, vous aviez une très grande partie de l'Algérie actuelle qui n'existait pas à l'époque, puisque c'est une entité qui a été fabriquée plus tard. C'est une entité qui a été fabriquée par les Français. Or, le Maroc est un des plus vieux États du monde, si ce n'est le plus vieil État du monde. Et ils avaient une très grande partie de l'Algérie qui leur appartenait, ainsi que la Mauritanie et le Sahara occidental, évidemment. Donc, c'était une très très grande puissance militaire. D'ailleurs, actuellement, le plus vieux corps militaire du monde, c'est un corps militaire marocain. Donc ils ont envahi l'Espagne et ils ont connu une avancée fulgurante puisque les Visigoths étaient en pleine débâcle, en pleine guerre civile, et ils sont montés jusqu'à Poitiers. Alors c'est pas exactement à Poitiers qu'ils ont été stoppés. En réalité, l'armée musulmane a été très fortement impactée par le siège de Toulouse qu'elle a tenté de réaliser. Et elle a pris une gigantesque branlée à Toulouse. Et ensuite, il y a une partie de l'armée musulmane qui est rentré en Espagne, et l'autre qui a voulu absolument aller piller un monastère qui avait pas loin de Poitiers. Et donc ils sont remontés, et là évidemment Charles Martel était sur le coup, et il a détruit cette avant-garde de l'armée musulmane. Il les a écrasés donc dans une bataille qui a été nommée par les musulmans le pavé des martyrs, puisque ça a été une victoire éclatante des Francs. Et donc Charles Martel a repoussé complètement les Arabes qui voulaient piller le monastère de Poitiers. Donc ils ont reflué dans le nord de l'Espagne, et là la Reconquista s'est amorcée avec un personnage illustre qui s'appelle Pelayo, Don Pelayo en espagnol, qui est le premier vraiment à acter la Reconquista. Et c'était un descendant de Visigoth, c'était un petit-fils de Visigoth. Voilà. La noblesse en Espagne, la noblesse en France était une noblesse franque. La noblesse en Espagne est un mélange de noblesse franque installée par Charlemagne et de noblesse visigothique. Voilà. Et donc, la Reconquista a commencé et ça a duré 8 siècles jusqu'à la prise de Grenade, de Grenade, qui était le dernier royaume musulman dans la péninsule ibérique, qui a été pris en 1492 par les rois catholiques. Voilà. Et les rois catholiques, pour célébrer cette démonstration de puissance chrétienne, ont consacré énormément de leur fortune pour bâtir le monastère de San Juan de los Reyes, donc Saint-Jean des Rois, donc référence aux rois catholiques. Ils avaient reçu ce titre parce qu'ils avaient gagné tellement de batailles contre les musulmans que le pape avait fini par les consacrer comme étant des rois catholiques, représentants de la catholicité. Et ces rois catholiques, donc, c'était l'union de deux couronnes, la couronne d'Aragon, qui est une très très vieille maison, et la couronne de Castille, qui elle aussi est une très très vieille maison. Donc ils se sont alliés, et en fait, avec eux, s'est alliée la majorité de l'Espagne. La Navarre, la Galice, les Asturies, le royaume de Léon, le royaume de Valence et tout le reste. Et les grandes maisons d'Espagne se sont alliées pour finalement vaincre les musulmans. Alors il faut savoir que ces guerres-là ont été aussi permises parce que vous aviez l'aide. Vous aviez l'aide des chrétiens des pays autour. Il faut comprendre que dans les batailles de la Reconquista, il y a énormément d'Occitans, donc des Béarnais, des Saint-Gaudinois, puisqu'il y avait le comté du Comminges. Vous aviez des Fuxéens, donc le comté de Foix qui était très puissant. La maison de Foix a été très très puissante avec Gaston Phébus. Je vous invite à aller visiter son château qui est absolument magnifique. À Foix. Donc en fait, vous avez au Moyen-Âge une conception du nationalisme et de l'identité. Alors nationalisme, c'est pas le mot qu'il faut utiliser, mais il y a une conception de l'identité qui est très fortement corrélée à deux choses. C'est la seigneurie et en tout premier lieu le catholicisme. Voilà. Et même si vous êtes un Italien ou un chevalier teutonique ou un Maltais ou un Corse ou un Grec, même si vous êtes orthodoxe ou un Croate qui était catholique ou les Bosniaques qui étaient catholiques à l'époque puisqu'ils n'avaient pas encore été envahis par les Ottomans, vous étiez en fait fédéré par la notion de chrétienté, et c'est ce qui a permis aux chrétiens de gagner des batailles souvent en sous-nombre. Il faut savoir que pendant la Reconquista, la majorité des batailles jusqu'à Grenade se font en sous-nombre. Les chrétiens étaient systématiquement en sous-nombre. Alors au début, je vous en parle pas, au tout début, quand il y a eu la révolte des Asturies, au début, ils étaient vraiment donc en 700 et quelques, 750, ils étaient vraiment en tout petit nombre, c'était vraiment un ratio de 1 contre 20. Et après, petit à petit, ils commencent en s'alliant avec d'autres royaumes, ils commencent à avoir de plus en plus de puissance. Parce que à l'époque, l'empire musulman, on va dire, hein, même si c'est un terme qui est pas adapté, mais c'est vraiment pour que vous compreniez. L'empire arabo-musulman s'étendait de Bagdad jusqu'en Andalousie. Donc ça recouvrait vraiment une très très grande partie de... C'était l'acmé du monde arabe, et ça regroupait une très très grande partie de l'Afrique du Nord et du Proche et du Moyen-Orient. Donc vous aviez vraiment une puissance de feu monumentale. Ensuite, les califats vont se séparer, Bagdad va se séparer de l'Andalousie. Je vous la fais vraiment très simplifiée, hein, d'accord. C'est un cours d'histoire vraiment très 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 simplifié et vulgarisé. Mais grosso modo, vous allez avoir une séparation, et là, les forces s'équilibrent un petit peu assez tardivement, cela dit. Et par contre, quand on arrive vraiment à la fin de la Reconquista, vous avez les chrétiens, c'est devenu des guerriers professionnels, et vous avez des unités d'élite qui mettent des pâtés sur pâtés aux musulmans. Qui sont dans un état de décadence, comme nous le sommes actuellement. Voilà, comme nous le sommes actuellement. Il faut bien comprendre qu'à chaque fois que des grandes puissances s'écroulent, c'est parce qu'il y a de la décadence. Tous les empires, depuis le début de l'humanité, s'écroulent parce qu'il y a une décadence morale et en termes de mœurs. Les Romains, il y avait une énorme décadence parce qu'à la fin, les citadins, les patriciens romains étaient des gens qui n'avaient plus aucune aptitude de combat, qui partousaient, qui étaient entourés de confort. Et qui n'avait plus aucune rigueur et aucune rectitude. Donc, et c'est ce que je reproche d'ailleurs à la droite actuelle, hein, c'est de ressembler à ces gens-là et de participer de la décadence globale. Parce qu'il n'y a pas de décadence de droite ou de gauche, il y a de la décadence. Voilà. Et il faut mettre fin à la décadence. Si vous voulez, les partouzeurs de droite, hein, ne valent pas mieux que les partouzeurs de gauche. Voilà, d'où le podcast numéro 50. Donc si vous voulez, quand vous regardez en arrière, vous regardez les grands empires, ils s'écroulent parce que vous avez une caste dominante qui n'est plus une caste guerrière, qui n'est plus une caste qui connaît les réalités de la guerre sans être une caste guerrière, et donc qui vit dans un petit monde qui ne lui fait plus voir les dangers qui la guettent. C'est le cas aujourd'hui de nombreux Français gauchistes qui en fait ont des policiers surentraînés pour les protéger, vivent dans des quartiers qui sont bien cloisonnés, et donc qui ne se rendent plus compte, parce qu'ils sont en état de décadence, du danger qui les guette. Donc ils développent des idées complètement saugrenues, des idées complètement à l'ouest, et en fait... en fait, ils se rendent plus compte du danger qui est à leur porte. Hein. Voilà. Et c'est toujours pareil, vous avez une élite guerrière ou une élite de pensée qui, elle, voit le danger, n'a pas succombé à la décadence et qui, elle, souvent est minoritaire et ne peut empêcher l'écroulement des empires. Voilà. Et chez les Arabes, ils étaient dans cette situation quand les chrétiens, c'est très simple. L'Empire romain a été détruit parce qu'il était décadent par les barbares. Puis ensuite, les barbares ont connu leur apogée tout au long du Moyen-Âge. Donc, c'est eux qui ont hérité des ruines de l'Empire romain. Ils se sont battus contre les Arabes qui ont eu de très très grandes batailles, de très très grandes victoires au début. Et puis, comme ils se sont mis à bouffer des loukoums, à s'asseoir sur des canapés et à pas faire la hijra, bon ben ils ont fini par perdre ce qu'ils avaient. Voilà. Et ensuite les grandes monarchies européennes ont prospéré jusqu'à elles-mêmes devenir décadentes, ne pas voir les dangers qui la guettaient et disparaître. C'est le cas notamment des monarchies absolues françaises où Louis XVI en fait n'a pas vu venir la décadence qui avait été installée par Louis XIV avec la noblesse qui vit à Paris et qui n'est plus connectée à la province, comme il disait, et qui ne fait plus la guerre. Et donc, en fait, ça fabrique des PD et des dégénérés. Et donc, à la fin, tu as des mecs qui, ils ont des chapeaux à ruban et tu n'as plus la figure du chevalier qui allait fendre des gueules. Parce que c'était ça. C'est pour ça que moi, je suis très fan du Moyen-Âge. C'est que le chef, c'était le chef, non seulement de droit divin, mais par la force. C'est parce qu'il était en capacité d'aller mettre des coups d'épée aux Vikings et aux Arabes qu'il était le chef. Voilà, Guillaume le Conquérant, il n'était pas le chef parce qu'il s'appelait Guillaume le Conquérant. Il était le chef parce que quand il allait en Angleterre, tout le monde se mettait à dire « Oui, s'il vous plaît, merci monsieur, une baguette s'il vous plaît ». Voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Et donc, si vous voulez, quand le pouvoir est accompagné de puissance et de virilité, ben, c'est un pouvoir triomphant. Et les anti-virilistes de droite, par exemple, ne comprennent pas que aujourd'hui le pouvoir belliciste est en fait le pouvoir économique. C'est-à-dire, quand tu as l'argent pour faire la guerre, tu n'as plus besoin de faire la guerre. Et c'est pour ça que les chefs puissants, les Xi Jinping, les Poutine, les Trump avec son Musk, sont des gens qui sont capables d'un pouvoir guerrier qui aujourd'hui n'est plus direct, c'est plus le roi qui va faire la guerre sans cheval, mais ils ont des capacités guerrières qui font que leur autorité est justifiée par la puissance. Voilà. Donc, et par l'instant, vous avez des gens qui élisent van der Leyen, tu vois, pour les représenter. Bon, mais ceux-là, ils n'auront pas droit au chapitre. C'est la triste loi de la décadence. Quand ta représentante, c'est Angela Merkel, qui est une espèce de boumeuse allemande dépressive, qui a des napperons chez elle, et qu'en fait, c'est mamie gâteau, tu vois, et qu'en face, t'as Xi Jinping, le chinois tortureur, et Vladimir Poutine, l'amphibien slave, et Trump, le cow-boy allemand exporté aux États-Unis, si tu veux. Bon, mais ça commence à être compliqué de t'appeler Emmanuel Macron ou je sais pas quel dirigeant décadent et nul de d'Europe. Voilà. Et ça, c'est une leçon qu'il faut retenir, c'est que c'est par la décadence et la fin de l'exaltation guerrière et de la virilité que vous avez une féminisation globale, y compris des hommes, qui conduit à la chute des empires. C'était le cas pour les Turcs. Les Ottomans, quand vous regardez les gravures de la fin de l'Empire Ottoman, c'est des pachas qui enculent leurs favoris à Constantinople. Voilà. qui sont rebaptisés assez tristement Istanbul. Voilà, qui est un mot rigolo d'ailleurs. Quand tu dis Istanbul, t'as du mal à prendre au sérieux la personne qui dit Istanbul. C'est Istanbul. Quoi, pardon? Tiens, voilà une tartine avec du miel et des noix dessus parce que non, on prononce Constantinople. Constantinople. Istanbul. C'est dégueulasse. Ah putain. Et donc, si vous voulez, les Turcs à la fin, ils s'endoffaient. Et c'était devenu un royaume esclavagiste qui avait des victoires faciles contre des bédouins dans le désert. Et en fait, ils avaient un empire de sable. Voilà, ils avaient un empire de sable et ils se sont fait éclater par des gens qui étaient bien moins puissants qu'eux, hein, en Éthiopie. Ils avaient des armes à poudre, les Éthiopiens, et ils ont mis une branlée aux Ottomans. Enfin, c'est assez triste. Enfin, hein, vraiment, l'Empire Ottoman, la fin de l'Empire Ottoman, c'est assez triste parce qu'ils étaient tous extrêmement décadents. Et si vous voulez, si vous ne prenez pas garde, votre pays finit par être le pays de Erdogan, c'est vous dire la tristesse quand on sait la puissance qu'a eu l'Empire ottoman finir avec un épicier à sa tête. Mais c'est pareil pour la France, hein, je veux dire, quand t'as eu des Saint-Louis et tu finis avec des Emmanuel Macron, c'est un peu compliqué. Donc je vous disais, je suis allé à Tolède, qui est donc la ville des trois cultures. Pourquoi des trois cultures? Parce qu'en fait, elle a été tantôt musulmane, tantôt chrétienne, et tout le long, il y avait des juifs dedans, qui avaient tantôt des statues de sous-citoyens, des statues de protection, puis des statues de persécution. Voilà. Et c'est pareil pour les chrétiens, qui tantôt étaient maîtres de la ville, tantôt, malheureusement, étaient voués à la dimitude par les musulmans. Et d'ailleurs, Tolède est vraiment le symbole, hein, pour les propagandistes du multiculturalisme. Vous savez que moi, l'aspect multiethnique ne me dérange pas s'il n'y a pas de multiculturalisme. En revanche, le multiculturalisme est un poison. Hein. Quand vous avez plusieurs cultures, je parle cultures fortes, hein, pas des cultures régionales, quand vous avez plusieurs cultures religieuses dans un pays, le pays ne peut pas fonctionner. Voilà. Il faut une écrasante majorité d'une culture qui a le pouvoir et qui ne laissera pas les deux autres cultures jouer contre elle. Voilà. Dans une Espagne, vous avez un tiers, un tiers, un tiers. Bon, c'était pas le cas. Hein. Mais c'était très, très compliqué d'avoir une unité politique parce que vous avez toujours un parti qui va comploter contre les deux autres en se servant des deux autres. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, l'espèce de rêve, l'espèce d'exemple de propagande que vous donnent les boomers avec, oui, Tolède, la ville des trois cultures, en Andalous, les trois cultures. Non, non. Quand les musulmans étaient maîtres de la ville, les chrétiens devaient payer un impôt. Il y avait des traitements injustes. Il y avait de l'esclavage. Les chrétiens étaient esclavagisés. Quand les chrétiens étaient les maîtres de la ville, ben les bougnoules, ils prenaient des tartes. Hein. Les juifs, on leur crachait dessus. Enfin, voilà. Il n'y a pas ce truc rêvé par la gauche d'entente et de vie en commun. Il y avait une cohabitation sujette à de la sous-citoyenneté. Voilà, ça c'est très très important parce que les musulmans ont tendance à vous présenter la colonisation de l'Espagne comme une colonisation bien, vous savez, parce qu'en fait la colonisation française en Algérie c'est l'horreur. Par contre la colonisation française, la colonisation musulmane en Europe, ça par contre c'était oulala, c'était vraiment les lumières. Vous aviez des arabes polis avec des barbes blanches et des voix rassurantes qui venaient caresser comme ça des chrétiens pour leur apprendre la vraie religion parce que ils étaient dans l'égarement, ils faisaient du shirk. Voilà, ça c'est un peu le fantasme. Le Wakanda des Arabes, vous savez, il y a le Wakanda des Noirs, qui est une affabulation hollywoodienne, et le Wakanda des Arabes, c'est l'Andalousie, en fait. Ils ont vraiment l'impression que les Arabes de l'époque, ils étaient très différents des Arabes modernes, il n'y avait pas du tout de décapitation d'infidèles, il n'y avait pas du tout de brimades religieuses, pas du tout, mais vraiment, quand on connaît les musulmans, comment peut-on imaginer qu'il y ait des persécutions de chrétiens ou de juifs sous des mandats musulmans? Voilà, vous vous égarez complètement à penser ça. Enfin, il suffit de regarder les musulmans pour comprendre de quoi ils sont faits et à quel point ils ont vraiment une grande mansuétude pour les religions qui les entourent. Donc, si vous voulez, ne vous laissez pas avoir par ce discours de « oui ». Alors, évidemment, les musulmans ont amené des choses très intéressantes en Espagne. Ils ont amené les notions d'irrigation. Ils ont ramené un savoir qu'ils pensent avoir fait, mais qui, en fait, est un savoir grec. Parce que quand Rome et la Grèce ont été, si vous voulez, pas la Grèce, mais quand Rome a été, quand Rome est tombée, tout le savoir grec et romain qu'il y avait à Rome a été, si vous voulez, oublié par les barbares germaniques. Et ce sont les marchands génois, italiens, qui faisaient commerce avec l'Orient, qui ont transmis. Il y a une élite qui est partie à Byzance, si vous voulez. Il y a une élite intellectuelle romaine qui est partie à Byzance, donc dans la Rome grecque, celle qui n'est pas tombée. Et à Byzance, ils étaient en contact avec les Orientaux et ils ont diffusé le savoir gréco-latin aux Orientaux, qui ont aussi bénéficié du savoir perse, puisque savoir que les Perses ne sont pas des Arabes, hein, c'est des choses complètement différentes. Et en fait, ce qu'on appelle la science arabe, le savoir arabe et tout, c'est des choses qui viennent en réalité des Perses ou des Gréco-Romains. Notamment les mathématiques. Alors on a souvent dit oui, les Arabes. Non, les Arabes, le zéro a été inventé par les Indiens. En tout cas, dans l'Indus, a été transporté par les Arabes jusqu'en Europe. Mais si vous voulez, la soi-disant science des Arabes était en fait, parce que les Arabes étaient des Bédouins, c'est pas des bâtisseurs. Donc en fait, ce qu'on prête souvent aux Arabes sont des constructions qui sont d'Afrique du Nord, de Berbères d'Afrique du Nord, ou des fois byzantines. Par exemple, ça c'est un gros travail qui a été fait en Espagne. On disait oui, tel bâtiment est arabe, non. Tel bâtiment a été fait par les Byzantins, a été récupéré par les Visigoths, a été ensuite transformé, par exemple, en mosquée par les Arabes, et ensuite, par les Berbères, et ensuite a été récupéré à la Reconquista. Mais ce sont des stratifications. Il y a des bâtiments qu'on pense être arabes, alors qu'en fait, ce sont des bâtiments byzantins. Et ce sont les Byzantins qui ont inventé les notions de coupole. En fait, ce qu'on pense être de l'architecture orientale est en fait de l'architecture gréco-perse, si vous voulez. Parce que les Grecs ont aussi été beaucoup influencés par les Perses. Donc, il faut faire très attention à cette propagande très pro-musulmane et pro-arabe, où on vous présente l'Andalousie comme étant l'acmé de l'entente qui ne serait possible qu'avec... Non, les occupants arabes, musulmans, arabo-musulmans ou berbéro-musulmans ont fait énormément de saloperies en terre chrétienne, et c'est ça qui a généré une Reconquista. Qui est la preuve que les chrétiens ont les faveurs de Dieu, puisque nous avons pris leur lieu saint. La Mecque a déjà été sous mandat européen. Le Vatican n'a jamais été sous mandat musulman. Voilà. Mais comme on est gentil, si vous voulez, on leur a redonné l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite n'existe que parce que les Anglais ont fait les accords de Sykes-Picot. Mais à ce moment-là, la Mecque était occupée par les Ottomans, et c'est vraiment les Anglais qui sont venus fédérer les Arabes pour récupérer, et notamment Laurence d'Arabie, pour fédérer les tribus arabes qui étaient incapables de s'entendre entre elles pour récupérer la Mecque. Voilà. Mais nous, à un moment, faut savoir qu'à un moment, la Mecque a été la propriété des Occidentaux. Ce qui n'a jamais été le cas, le Vatican, le siège du catholicisme, n'a jamais été la propriété des musulmans. Voilà. Donc ça, il faut quand même le préciser. Donc, la Reconquista a été donc la preuve de l'existence de Dieu, évidemment, puisque il y a eu un reflux massif. Les rois catholiques ont décidé que ça suffisait et qu'ils pouvaient tous rentrer chez eux. Donc, si vous voulez, la ville de Tolède est le symbole donc de ces trois traces. Il y a un quartier juif qui s'appelle la Juiverie, la Juderia. Vous avez l'intégralité de la ville qui est très marquée par la présence chrétienne et par la présence des rois catholiques. Donc, vous avez des cathédrales partout avec des tableaux du Gréco et tout. Et vous avez évidemment des marques de la présence musulmane, évidemment, puisqu'ils sont restés beaucoup de temps. Et ils ont fait donc des mosquées qui ensuite ont été transformées. Enfin, ils ont fait des mosquées sur les églises qu'il y avait déjà, et ensuite c'est redevenu des églises à la Reconquista. Voilà. Donc c'est des villes à voir. Vous quand vous allez là-bas, vraiment vous hallucinez de ce que une adhésion forte à la chrétienté peut produire en termes d'art, en termes d'énergie. Là, vous sentez une Europe extrêmement puissante. Et c'est un peu ce que je déplore chez beaucoup de droitards, c'est que malheureusement, ils sont pas allés assez visiter du patrimoine, que ce soit en France, que ce soit en Italie, en Allemagne, en Autriche, en Espagne, parce que vraiment, vous voyez à quel point l'adhésion à la chrétienté a fabriqué de très très belles choses, voilà, et a constitué notre acmé en termes de puissance, voilà, le sommet de notre puissance vraiment, c'est quand les Européens avaient une très forte adhésion au catholicisme, voilà, et au catholicisme ou à l'orthodoxie pour les Européens de l'Est, voilà. Donc si vous voulez, on a vraiment des traces absolument magnifiques de ce qu'on a été capable de faire au nom de la foi, que ce soit en termes d'exploits guerriers ou en termes d'architecture. Et vraiment, quand je suis allé donc à Tolède et à Ségovie, mais j'ai vu des trucs absolument merveilleux, d'une richesse, mais vraiment, si vous voulez, ça prenait des années, des fois des décennies pour faire les boisures d'une pièce avec des incrustations de nacre, les dorures, les statues, les carrelages qui étaient peints à la main, les carrelages muraux quand ça concerne le Portugal ou l'Espagne, et puis ensuite les peintures, voilà, que vous avez dans les cathédrales en France. Enfin, moi, je ne comprends pas comment les gens, quand ils vont visiter la cathédrale de Reims, la cathédrale de Metz, la cathédrale de Chartres, la cathédrale d'Albi, comment ils ne peuvent pas être complètement subjugués par la puissance qu'on a été capable de développer en termes de démonstration, parce que c'est de la démonstration de puissance, une cathédrale, quand on était unifié par la chrétienté. Et c'est pour ça vraiment que j'en fais mon cheval de bataille, parce que j'estime que on ne pourra récupérer un sentiment de puissance et de plénitude qu'une fois qu'on aura renoué avec cet héritage, en fait, voilà, avec l'héritage catholique des Européens. Et si vous voulez, moi, je suis un peu à rebours de beaucoup de gens qui en ont marre d'entendre parler de religion, parce que je suis très très sensible à ces marques de puissance. Je vous dis, quand je visite ces châteaux forts, quand je visite ces cathédrales, ces peintures absolument magnifiques et tout, je me dis, putain, mais les mecs étaient portés par un truc qui était autre chose que Bardella 2027. Je suis quand même obligé de vous le dire. Ils étaient portés par des trucs d'une puissance, putain, mais tout respire la puissance. Puis t'imagines la mentalité des mecs comme ça, parce qu'il y a une espèce avec la chrétienté d'emphase qui est absolument incroyable et qui est unique, quoi. Quand tu rentres dans la... ben parce que t'imagines les mecs en train de décider qu'est-ce qu'ils vont faire. Voilà, moi c'est ça en fait qui me régale. Et si tu veux, tout le monde est un ambitieux, un espèce de John Wayne, un espèce de Charles Bronson, de l'architecture, de la peinture, de la guerre, de ce que tu veux. Tout le monde est Clint Eastwood, en fait, tu vois. Tout le monde a le regard un peu fermé, tout le monde a la gueule de Clint Eastwood dans Impitoyable, tu vois. Ça, tout le monde arrive et dit, on va faire une cathédrale, elle va faire 300 mètres de haut, tu vois, il y a un côté comme ça. Il y a un côté John Wayne, si tu veux, qui marche en boitant. Il arrive à un endroit, il dit, bon, ici, on va faire un Alcazar, d'accord? Et on va faire des peintures murales de 20 mètres par 10, ok? Et là, t'as une armée de peintres qui sont eux-mêmes des John Wayne, des Clint Eastwood, des Charles Bronson, des Jean Gabin, tout ce qui est puissance, tu veux, qui déboulent et qui font OK, tu vois, et qui font des trucs monumentaux, tu vois, monumentaux. Et les hauteurs sous plafond, si tu veux. Les mecs faisaient 1m52 parce qu'ils mangeaient, si tu veux, ils mangeaient pas trop de sucre, tu vois. Donc c'était pas des barbaques, bien que ça dépend, hein. Y a des périodes du Moyen-Âge où les gens sont très petits, il y a des périodes où ils sont très grands et très costauds. Donc, et des endroits aussi, ça dépend des endroits. Mais il y a le côté où les mecs arrivent, ils font, allez, on va faire une salle, là, on va faire un plafond de 3 mètres. Non, plus, 4 mètres. Non, le double, allez, 8 mètres. Donc, t'as 8 mètres de plafond, tu vois. T'as 8 mètres de plafond. Bon, c'est inchauffable, faut raser 4 forêts par hiver, pour mettre des énormes troncs d'arbres à brûler, tu vois, à flambusquer dans la cheminée. Mais si tu veux, tu rentres, tu sens que c'était épique. Là, à Ségovie, dans l'Alcazar de Ségovie, et vas-y que t'as des armure avec des influences françaises, hein, des influences milanaises, des influences gothiques. Et alors ça me régale parce qu'en Espagne, comme c'était les rois catholiques se sont ensuite alliés aux maisons germaniques et germano-flamandes et bourguignonnes des Habsbourg, si tu veux. Bon, ben t'as tout le côté gothique qui est arrivé, donc t'as des espèces de mélanges. Et ça régale. Ils avaient vraiment une touche et une allure, mais moi ça me transporte. Tu rentres dans la salle principale de l'Alcazar de Ségovie, t'as des espèces de chevaliers. Donc c'est des mannequins, hein. Mais c'est comme quand vous allez aux Invalides à Paris. Mais moi, je suis allé aux Invalides, je suis sorti, j'ai pris un Fervex, si tu veux. J'ai pris une aspirine, j'avais mal à la tête, j'avais mal aux yeux, parce que mon cerveau avait tellement été aspiré et sollicité par l'étalage de puissance française que j'ai vu aux Invalides. J'en suis ressorti, j'avais mal au casque. Comment tu peux être républicain, tu vois, croire en la République, hein, quand tu te balades dans des armées d'armures de François Ier, des campagnes d'Italie avec des impacts de boulets dans la carcasse, avec des épées magnifiques, des mousquets, des casques, des armures blindées là de tournois où les mecs se rentraient dans la gueule à grands coups de pique avec des frisons lancés là à 70 km/h. Tu comprends pas quand, tu comprends pas comment les mecs peuvent accepter de recevoir des tracts de l'UMP ou des Républicains et de Bardella et de penser que c'est ça qui va réaccoucher de la France. Ce qui va réaccoucher de la France, c'est l'esprit qu'il y a aux Invalides. C'est l'esprit que t'as quand tu vas visiter le château de Foix et qui te font des espèces de d'expositions de feu et de lumière sur gros Gaston Phébus qui met des coups d'arbalète à des sangliers, si tu veux. Parce qu'il y a ça au musée de Foix. Il y a une scène, enfin j'adore, vraiment le musée de Foix, il est magnifique. Tu as donc, il t'expose ce qu'il y a dans le livre de chasse de Gaston Phébus. Il passait son temps à chasser déjà le Gonza. Si tu veux, les mecs étaient dirigés au Moyen-Âge, pas par des PD de boomers obèses qui boivent du Nuit Saint-Georges à 500 balles la bouteille. Ils étaient dirigés par des Gonzes qui montaient à cheval, qui chantaient des gros trucs en occitan parce qu'il a écrit ses cantos, Gaston Phébus. C'était des mecs qui allaient faire la guerre, c'était des mecs qui composaient des chansons pour leurs gonzesses. Dans les chansons d'amour, il y avait de la violence. C'était pas encore le R&B de Zucker, quand. C'était pas se coller le bassin contre une gonzesse, là, et commencer à tortiller, là, à bouger le bassin. Non, c'était pas ça. Les gonzesses, quand tu voulais les séduire, tu leur parlais de violence. Tu leur disais, montagne, écartez-vous, je vais fendre la gueule de 200 millions d'Arabes pour venir te retrouver dans la tour où ils t'ont emprisonné. C'est ça. C'est les poèmes de l'Arioste. C'est les poèmes de la chanson de Roland. C'est des gonzes à cheval qui galopent, comme ça, en armure, pour aller éclater 200 ennemis, pour aller retrouver leur gonzesse. C'est Cyrano à la porte de Nest, qui affronte 100 types à la rapière parce qu'il est amoureux, quoi. Voilà, c'est ça, c'est cet esprit-là, si vous voulez. Et quand je vois des fils de pute qui sont exaltés par un discours d'un keuk qui veut pas être assimilé par Donald Trump parce que Elon Musk aurait fait un salut romain et parce que Milley a des tronçonneuses et que c'est pas dans l'arc républicain, mais allez vous faire enculer! Allez vous faire enculer! Vous êtes fade! Vous êtes fade comme un steak de tofu là, qui vend en Hollande! Vous êtes fade comme ça. Le Moyen-Âge, c'est la viande. La modernité bardélienne, la droite bardélienne, c'est un steak de soja, bande de fils de pute. C'est ça que je vous reproche, en fait. C'est que quand tu as assisté à autant de déploiements de beauté... Moi, je me rappelle quand j'étais allé au Portugal. Mais putain, le Portugal, c'est des châteaux et des châteaux avec du putain de carrelage blanc et bleu dans tous les sens. Mais putain, ça respire l'invasion du Mozambique, en fait. C'est-à-dire que les types, ils bouffaient un pastèche des natas, tu vois. Après, montaient sur une caravelle, ils allaient fouetter à 30 Portugais, 250 mecs. Puis les gros convertissaient au catholicisme et ils faisaient le tour du monde avec des marins basques, tu vois. C'était ça les Portugais, en fait. Et putain, quand tu vas au Portugal et que tu vois la bibliothèque, alors elle était où? La bibliothèque de Porto, je crois. Quand tu vas voir la fenêtre de Tomar à Aveiro, je suis désolé, je prononce mal le portugais. Quand tu vas à Nazaré, quand tu vas à Lisboa, quand tu vois les cuves, les caves de Porto, mais tout ça. Tout ça, là, je parle au franco-portugais, au franco-italien, au franco-espagnol, au franco-normand, au franco-savoyard, au franco-alsacien, au franco-basque. Dès qu'il y a un truc stylé régionalement ou dans votre pays, c'est lié à l'époque où le catholicisme était official. Là, ça, c'est incontestable. Donc, en fait, quand t'as un fils de pute qui déboule et qui te dit « Non, non, mais t'inquiète, il y a une solution, sans renouer avec ça, il te ment. » Il nie le style des Invalides, en fait. Il y a la grosse armure de François Ier. Vous savez que il y a une armure qui a été offerte par François Ier à Charles Quint. Et en fait, on le sait peu, mais il y a une armure qui a été offerte par Charles Quint à François Ier. Bon. Et en fait, cette armure, parce qu'ils savaient que François Ier était très grand. Donc, ils avaient fait une armure gigantesque. Il contenait pas dedans François Ier, parce que oui, il était grand, mais ils avaient oublié qu'il faisait 200 plaques, le mec. Donc, il avait un tour de buste de bâtard. La France, elle était dirigée par des gonzes comme ça. Alors, je suis pas fan de la politique internationale de François Ier qui s'est allié aux Turcs. Mais après, François Ier en soi, il régale dans les guerres d'Italie. Il monte au front avec des capitaines gersois, là. Avec des gonzes de Condon et de Hoche, tu vois. Ça régale, en fait. D'accord, François Ier, il va au combat, il s'y file contre les Espagnols, il s'y file contre les mercenaires germaniques, les Lansquenets, les Lansknecht, germains, avec les Suisses, avec les mercenaires luzernois et tout, là. Mais l'Europe avait un style monumental, monumental. Et les gonzes ne comprennent pas. Je sais pas comment leur expliquer, quand. Je sais pas aller dans une putain de cathédrale, aller dans un putain de musée, et j'aurais pas besoin d'argumenter podcast après podcast. C'est ça qui me fend, moi. C'est que les gonzes me disent, tu nous fatigues, mais allez voir du patrimoine, vous verrez par vous-même, bordel. C'est quoi la hauteur de plafond dans la cathédrale de Sainte-Cécile d'Albi? C'est 30 mètres, ou je sais pas combien, ou 10 mètres, ou 15 mètres, ou 20 mètres. C'est des trucs comme ça. Qui fait ça? Regardez les autres bâtiments. Regardez ce qu'a produit la France. C'est quoi que vous voulez opposer à ça? La Tour Eiffel, c'est dégueulasse. Je le dis, la Tour Eiffel, c'est dégueulasse. On s'y est habitué, mais c'est pas fifou. C'est pas fifou. T'aurais mis une statue de Saint-Louis à la place, ça aurait régalé. C'est-à-dire que si à la place d'y avoir un espèce de dôme en ferraille industrielle, t'avais une statue de la même hauteur de Charlemagne, de Charles Martel ou de gros Saint-Louis, mais ça régalerait Paris si c'était une putain de statue de Charles Martel, si tu veux. Les gonzes, là, les zouzous exportés là, des barbaresques qui peuplent le banlieue, ils prendraient le RER et qu'est-ce qu'ils verraient par la fenêtre? Ils verraient un mec avec un marteau. Tu vois ce que je veux dire, hein? Ils verraient un franc avec un marteau. Ça serait quoi l'ambiance en France, en fait? Tu vois? Si à la place de la Tour Eiffel, notre monument national, c'était une statue de Charles Martel avec un marteau. Le mec a un marteau. Il a un maillet le roi Merlin. Il a un maillet Dexter, Milwaukee. Il a un maillet Milwaukee et c'est un roi de France, tu vois. Et après, les touristes, ils arrivent là, les Chinois, ils se prennent en photo devant les nains. Qu'est-ce qui représente ce roi? Alors, je vais vous expliquer. Bonjour, bienvenue dans la France. Alors, ça, c'est un roi, en fait, si tu veux. Les musulmans sont arrivés pour nous faire réciter la charada. Il a pris un marteau à le roi Merlin, il les a explosés dans une bataille. Il y a un contre 20. Voilà. Ça, c'est notre monument national. Est-ce que vous croyez que LFI serait à je sais pas combien de pourcents, en fait? Ça serait quoi les mentalités si la France était restée la France de la Renaissance et de la fin de la guerre de Cent Ans? Si la France était restée la France de Du Guesclin, tu vois, avec des gonzes qui se rendent à la gueule à je sais plus combien de milliers de joules à cheval, tu vois, ça serait quoi l'ambiance, en fait? Est-ce qu'il y aurait des Delogu? Est-ce qu'il y aurait des Louis Boyard? Est-ce qu'il y aurait des Mélenchon? Hein, voilà, hein, Mélenchon. Est-ce qu'il y aurait ça? Il y aurait pas tout ça. Et vous le savez. Vous savez que tous les zouzous qui ont été importés et qui détestent la France ont été importés par la République. Par la République. Au Moyen-Âge, on n'importe personne. On ne peut faire rentrer dans un royaume chrétien que des chrétiens ou des juifs à la limite pour faire le commerce. Mais ça finit quand même en brimade parce qu'au bout d'un moment, le Talmud, ça a 2 minutes. Voilà. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi votre corps rejette ça? Putain, à Ségovie, j'en pétais. Tu rentres, quand tu passes le pont, tu as des boucliers qui sont accrochés au mur avec les armoiries des rois catholiques pour t'expliquer que la ratonnade, c'est, si tu veux, l'identité nationale, en fait, tu vois. Donc, déjà, commençons par le début. Ensuite, il y a des bustes de Charles Quint, de son fils Philippe II. Il y a un donjon, il y a des bombardes, quand vous savez ce que c'est qu'une bombarde? C'est sorti de l'esprit de je sais pas quel gonze là en Orient qui s'est dit je vais inventer la poudre à canon. Il a vendu ça à un génois qui l'a vendu à un français, et les français, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des canons qui ressemblent en fait à des gonzesses du Béarn. C'est-à-dire qu'en fait le canon fait 1 mètre de haut, 1 mètre de large, en fait, tu vois. C'est 10-20 centimètres d'épaisseur d'acier. Ils mettaient un boulet en pierre ou en bronze dedans, tu vois, et ils tiraient, et le truc faisait une cuillère en l'air et ça atterrissait sur un régiment d'anglais qui explosait, en fait. Est-ce que tu crois qu'à l'époque on se faisait mal parler, quand? Est-ce que tu crois qu'à l'époque on se faisait mal parler par les gonzes qui boivent du Capri Sun? Est-ce qu'à la fin de la guerre de Cent Ans, les gonzes qui buvaient du Capri Sun, ils avaient droit à la parole dans la France de Charles IX, là, quoi? Est-ce que tu crois que les gonzes à l'époque de l'autre, là, comment il s'appelle, putain, un des chevaliers là de qui se baladait avec Jeanne d'Arc, la Hire, est-ce que tu crois qu'à l'époque de la Hire, hein, d'accord, est-ce que le CRIF touche pas à mon pote, touche pas à mon bougne, et toutes les autres associations, elles avaient leur mot à dire, en fait? Non, c'était le roi de droit divin qui commandait, d'accord? Et ça chantait des chansons médiévales pour aller au combat en ancien français, fils de pute. C'était pas un peu plus exaltant que ce qu'on te propose aujourd'hui? Est-ce que la droite de l'époque, c'était Morandini? Ou est-ce que là, qui touche des gamines, d'accord, et qui est toujours sur CNews et chez qui les gens acceptent d'aller quand en sachant ça? Ou est-ce que c'était les grosses charges avec Jean de l'Aveugle qui amène 2 gonzes avec lui parce que comme il est aveugle, en fait, il veut qu'il y ait 2 mecs qui lui expliquent où il doit taper avec son épée. Il a fini par charcler les mecs qui lui donnaient les indications. C'était ça, la droite, quoi. C'était pas Pro et Morandini. Donc, si tu veux, je veux bien que vous m'expliquiez qu'un, il est pénible avec ses trucs virilistes, il est pénible avec son Moyen-Âge. Mais nique ta mère, en fait! La modernité, elle a donné quoi? La modernité, elle a donné Bardella qui veut pas être associé à Milei parce qu'il a une tronçonneuse. Est-ce que les mecs du Moyen-Âge, ils l'auraient validé, Milei? Tu sais, il serait arrivé avec sa tronçonneuse. Tu vois, il serait arrivé sur le front, là, à Crécy. Il aurait, oui, c'est une espade. C'est une épée, quand. C'est une épée à roulement. Voilà, c'est, quand j'actionne cette, tu sais, il aurait expliqué ça au moyen. Non, attendez, c'est pas de la sorcellerie, me brûlez pas. C'est une machine, quand j'appuie sur la poignée, ça fait ça, là. Et il aurait fendu un cadavre d'anglais, tu sais, devant tout le monde, il y aurait des giclures. Les mecs, ça les aurait régalés. Ça les aurait régalés, quand. Comment ça se fait que Charles IX, il aurait validé Milei et que Bardella, il veut pas le rencontrer? Parce que oulala, on a rien à faire, on est la droite républicaine. Mais la seule droite, elle est pas républicaine, elle est dans ta gueule normalement. Quand tu refuses d'être associé à je sais pas quel mec de Meuse parce que soi-disant, il aurait fait un salut fasciste, mais arrête. Là. Il disait bonjour à la... Il y a eu ça récemment. Il y a eu Bardella qui a queuqué. Et en fait, vous ne comprenez pas qu'on va sortir du merdier quand on arrêtera d'avoir des chefs qui sont des queuques. Regardez les Américains qui sont décomplexés, quoi. C'est plus un président qu'ils ont, c'est un cow-boy qui rentre dans le saloon en mettant des chassés dans les portes. Et après, il commande un double scotch, quoi. D'accord? Et il fait des very simple. Ok? Voilà, il fait des trucs comme ça. Putain, quand est-ce que vous avez arrêté d'attendre des solutions qui viennent de mecs qui ont des mœurs d'énormes PD, quoi. Ils ont des mœurs de guignol. Ils ont des mœurs de mecs qui foutent des doudounes sans manches qu'ils ont achetées chez Devred, quoi. Ils ont des vibes comme ça, les mecs. Ils ont des demi-rires, là. Ils rient comme ça. Ils rient comme ça au Moyen-Âge. Comment on rigolait au Moyen-Âge? Il y avait des grands. Il y avait des trucs comme ça. C'est pour ça qu'il fallait 6 mètres de plafond, de hauteur de plafond. C'était pour contenir les rires médiévaux, quand. Aujourd'hui, les types, ils peuvent rire dans un mouchoir. Ils sont dégueulasses. Ils ont des petits gestes, des petits doigts, des petits corps. Ils sont dégueux. Ils sont dégueux, quand. Et vous attendez des solutions, alors que la période est gravissime. Elle est gravissime, la période. Vous attendez des solutions de mecs comme ça. Au lieu de comprendre que les solutions, c'est les Milei avec des tronçonneuses et des Trump avec les yeux plissés, qui signent des trucs au marqueur et qui disent « je vais envahir le Canada ». Vous savez que le Front National a dit, pas le Front National, le Rassemblement National a fait un communiqué. Ah oui, on se départit de cette remise en cause de la souveraineté. Ta gueule, Trudeau, c'est un keuk, c'est un communiste. Quand ton pays est communiste, il mérite soit d'être démantelé, soit d'être absorbé par un autre empire stylé. Voilà, c'est tout, en fait. C'est tout. Donc j'en ai plein le cul de cette remise en question de l'urgence du catholicisme. Il y a une urgence catholique, ça vous plaît pas, c'est pareil quand, c'est pareil. Si on veut re-avoir des Portugais en caravelle, si on veut re-avoir des Normands qui envahissent l'Angleterre, si on veut re-avoir des Savoyards qui prennent le bateau pour aller foutre une branlée aux Turcs dans les pentes, si on veut re-avoir des Espagnols qui au lieu de faire des chipirones pour les touristes hollandais sur la côte, se remettent à faire des alcazars pour faire la guerre au bougne, on veut ça quand. Si on a ça, ça va re-être l'Europe. Ça va re-être l'Europe. Regardez au Royaume-Uni, putain, un des derniers pays qui résiste à la pakistanisation, c'est les putains d'Irlandais. Ils sortent faire des manifs dans la rue, ils chantent des trucs en des chants religieux en gaélique. Ils chantent des chants religieux en gaélique. Pendant ce temps, en Bretagne, en France, on organise des concerts de Chicken Jaffa Coli qui vient chier sur les blancs, con. Moi, je sais pas quoi vous dire. Si ce n'est qu'il faut le retour du gros catholicisme en France. Pour refaire des charges, là, façon guerre de 100 ans, là, on vous parlera mieux. Là, on vous respectera, vous serez digne de respect. Tant que vous serez pas respectable, vous serez pas respecté. C'est une règle d'or. C'est une règle d'or, les amis. Et le respect, il s'impose par la force et les convictions. Les convictions religieuses, la force militaire. Voilà. Si on arrête de dépenser, je sais pas combien de millions d'euros pour aider l'Ukraine, et qu'on se refait une armée française puissante comme elle existait auparavant, qui était la première armée d'Europe en très très longtemps, les gens nous parleront différemment. D'accord ? Là, l'Algérie, elle parle mal à notre président français parce qu'ils savent qu'on est des keuks et qu'on peut pas retourner leur mettre une branlée. Ils le savent, ils le savent. Et c'est pour ça qu'on se fait mal parler par des pays qui qu'on balaye et qu'historiquement, on a balayé. On les a balayés historiquement. Donc, si vous voulez, je ne comprends pas cette résistance à renouer avec cette puissance-là. Putain, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Ils veulent pas entendre parler de religion. J'en peux plus. Et les mecs sont là, oui, fais-nous un podcast sur ci, fais-nous un podcast sur ça, mais j'ai envie de vous parler de Dieu parce que c'est l'urgence. C'est beaucoup plus urgent que de clasher ici, en fait. Bon, même si elle aussi, il faudrait lui parler un peu de Dieu, quoi. Vous voyez? Et si eux, moi, je fais des voyages, je vois des trucs, et je sais que tous les mecs qui commentent sur Twitter, oui, le virilisme, nanana, ils sortent pas de chez eux. Ils sortent pas de chez eux. Ils ont des vies de fils de pute. C'est pour ça qu'ils comprennent rien à la grandeur. Ils comprennent rien à la grandeur. Ils veulent un iPhone 5, je sais pas combien maintenant c'est. Je sais pas quel numéro d'iPhone on est, quoi. Mais c'est ça. Ils veulent un iPhone 5 et qu'il y ait moins d'arabes. Et pouvoir partouzer tranquille avec toute la droite orléanaise. Voilà, c'est ça qu'ils veulent. Enculé, tu veux pas en revoir des châteaux forts? Tu veux pas revoir des rois? Tu veux pas revoir des charges de Français qui chantent des chants de guerre? Putain, moi je rêve de ça, quand je rêve de ça. Au lieu d'être rempli de Français, les cathédrales sont remplies de touristes et de boomers de merde avec leur parka rouge qui viennent avec des appareils photos qui méritent pas, filmer des tableaux qui méritent pas de voir. C'est insupportable. T'as vu Martine, gnagnagna, fils de pute, t'as voté toute ta vie pour que l'église elle soit vide. Tu fais partie de cette génération de 68 arts de merde qui ont foutu la France par terre. Et tu viens filmer les restes. Tu retournes chez le lieu du crime, espèce d'enculé. J'en peux plus de cet arc républicain. Tous les gens qui défendent l'arc républicain sont des traîtres à la nation. Ce sont des traîtres à la nation. N'importe quel représentant politique qui défend la République, qui se réclame de la République, est un traître. C'est un traître à la France. La République a tenté d'assassiner la France. La République a foutu le bordel. Tous les mots qui vous accablent viennent de la République. C'est tout ça, le colonialisme, le regroupement familial, ça s'est fait sous la République. Je vous parle pas des conquêtes militaires, je vous parle du colonialisme. C'est deux choses différentes, je vous l'ai déjà expliqué. D'accord ? Les conquêtes militaires, c'est quelque chose de glorieux, c'est normal. Le colonialisme, façon Troisième République, c'est dégueulasse, en fait. C'est dégueulasse. Voilà. Et aujourd'hui, les gens viennent nous reprocher ça, comme si l'histoire de France se résumait à cet épisode de 150 ans. Bon, ils oublient qu'on a 2000 ans d'histoire, en fait. Enfin, 1500 ans d'histoire chrétienne, en tout cas. Bon, et donc si vous voulez, à un moment, va falloir y revenir. Ça vous plaît pas, il va falloir y revenir. Tout ce que vous aimez vient de là. Tout ce que vous aimez a été fabriqué à cette époque-là. Les plats régionaux, putain, à Tours, ils ont Saint-Grégoire, je crois, ou Grégoire de Tours, ou Saint-Grégoire de Tours, je sais plus, l'histoire, elle est magnifique, il a coupé un morceau de sa cape. Voilà, toutes vos identités régionales sont corrélées autour du christianisme. Putain. Est-ce qu'il y a un Breton plus stylé que du Guesclin? Est-ce qu'il y a un Breton plus stylé que du Guesclin? Je pose la question. Non. Est-ce qu'il y a un Normand, à part Baptiste Cheval et Maxime Beausire et Aurélien Lejeune, est-ce qu'il y a des Normands plus stylés que Guillaume le Conquérant? Encore, ils sont quand même... Ah, je suis désolé, les gars, je vous aime beaucoup, mais vous êtes en dessous de Guillaume le Conquérant. Voilà, c'est comme ça. Bon, c'est comme ça. Guillaume le Conquérant, il allait chez les Anglais, il leur a mis une claque dans la nuque. Mais vous en êtes ses héritiers, vous êtes ses enfants. Voilà. Est-ce qu'il y a un Normand plus stylé que Guillaume le Conquérant? Non, bande de fils de pute, non. Est-ce qu'il y a un Belge plus stylé que Godefroy de Bouillon? Putain. Est-ce qu'il y a un Belge plus stylé que Godefroy de Bouillon? Je vous repose la question. Non. Non, il n'y en a pas. Prendre Jérusalem à 1 contre 6 et s'appeler Godefroy de Bouillon et dire... Je veux pas devenir roi de Jérusalem parce que je veux pas être couronné d'une couronne d'or, là où le Christ a été couronné d'une couronne d'épines. C'est quand même autre chose, ça, que les Belges qu'on a actuellement. Qui sont des Marocains, en fait. J'aime beaucoup Virginie Efira, mais si tu veux, je préfère Godefroy de Bouillon. D'accord? Alors, pas pour une séance, hein, mais pour ce qu'ils ont réalisé. D'accord? Est-ce qu'il y a un mec de Reims plus stylé, d'accord, que les rois francs de Reims, en fait. La Picardie, elle nous a donné quoi? Elle nous a donné des rois francs, d'accord. Il y a rien de plus stylé. C'est pas Aurel San, il est picard. Je suis désolé, Aurel San, il est moins stylé que les rois francs, d'accord. C'est comme ça. Est-ce qu'il y a un Pyrénéen plus stylé que Roland, de la chanson de Roland, quoi? Non. Donc c'est à un moment, il va falloir choisir. Soit c'est les Comtes de Toulouse, d'accord. Soit c'est Jean-Michel Baillet. Jean-Michel Baillet, c'est la République. Les Comtes de Toulouse, c'est la première croisade. Bon, qu'est-ce qui se passe, en fait? Et si vous voulez, on peut comparer tout, les gars, tout. Alors oui, Napoléon, tout ce que tu veux, oui, il a fait des trucs stylés. C'est vrai que la geste napoléonienne, c'est stylé. Moi, je la mets derrière le Moyen-Âge. Voilà. Moi, je le mets derrière le Moyen-Âge parce que il y a eu du 1 contre 6 en Terre Sainte, en fait, avec des épées, tu vois. Et on a quand même gagné. L'autre jour, il y a un mec qui disait, oui, mais les chrétiens n'ont gagné qu'une seule croisade. Gros, vous étiez à domicile, hein, et on était 1 contre 6 à chaque fois. Ça, on l'oublie. C'est pas égalité. Et quand c'était chez nous, on était quand même en sous-nombre. Parce que l'Orient a toujours été, en tout cas à cette époque-là, toujours plus puissant que la chrétienté en termes de nombre et tout, parce qu'ils avaient un empire qui était gigantesque. Mais on les a quand même battus, parce que Jésus-Christ. Voilà. Donc, vous pouvez tourner le problème comme vous voulez, vous pouvez vous raconter ce que vous voulez. Les trucs les plus stylés de l'histoire de France sont corrélés à l'adhésion des Français au christianisme. Et notamment au catholicisme. Il y a quelques protestants méritants, mais la majorité des mecs qui pèsent, c'est des catholiques. Voilà. Donc, maintenant, on arrête là. On arrête les trucs bardéliens. Oui, mais je peux concilier les deux. Non ! Tu peux pas concilier Jésus-Christ et concilier la République qui est sa négation. D'accord ? Tu ne peux pas. Va falloir que tu choisisses. Va falloir que tu choisisses. D'accord ? Donc, à un moment, il va falloir sortir de chez soi, faire des vrais trucs. Se réempouvoirer, comme disent les woke, là. D'accord ? Reprendre possession de son corps et reprendre possession de son âme. Très, très important. Très, très important, les gars. Et on va se remettre à écouter du Guillaume de Machaut. Je vais pas vous refaire le coup, là. Vous avez fait le coup, là, quand je vous avais parlé de... Comment ça s'appelle, là, de... L'autre truc, là, de... comment ça s'appelle, putain, Scissor Sister. Et je vous avais mis du Guillaume de Machaut, après. À un moment, si on veut retrouver des trucs comme ça, va falloir qu'on dise non à Scissor Sister. Et qu'on dise oui à Guillaume de Machaut. En cette terre où je vis royalement. Non, je... En cette terre où Dieu fut mort et vif. Putain, c'est épique. Hein. Il faut imaginer ça chanté par des armées de mecs avec des hallebardes quand... et des marteaux de luzerne. Des marteaux de luzerne. C'était ça la loi à l'époque. Des marteaux de luzerne. Est-ce que tu crois que Naël, il est là? Et est-ce que tu crois que quand il est là, il fait des refus d'obtempérer? Il y en a eu un gros de refus d'obtempérer à Poitiers. Vous avez vu comment il a fini? Est-ce qu'il y a eu une cagnotte de... Comment il s'appelle de, il y a eu une cagnotte de Mbappé pour les petits anges partis trop tôt après Poitiers, au pavé des martyrs? Non! Non, à l'époque, la question ne se posait pas. Elle a commencé à se poser à partir de liberté, égalité, franc-maçonnerie. Voilà. Donc à un moment, One Direction, comme le groupe de pédale, là. One Direction, les amis. The Christ, the Holy Christ. Non, mais je suis désolé, je vais m'auto-clasher et je vais clasher nos voisins portugais que j'aime beaucoup. Mais c'est devenu quoi, le Portugal et l'Espagne, à partir de la fin de nos empires catholiques? On est devenus des merdes. On est devenus des merdes, il faut dire les choses, d'accord? Les Espagnols, ils ont des survêtres Repsol et des coupes mulets. Ils sont connus pour ça, maintenant. Avant, on était connus pour évangéliser les Indiens et lâcher des chiens de guerre sur les Turcs. Et mettre des branlés aux Turcs en Méditerranée, on était connus pour ça, les Espagnols. Les Portos, ils étaient connus pour arriver en Angola, et tout d'un coup, tout le monde se dit, tout le monde commande des sagrèches quand ils repartent. D'accord? Et aujourd'hui, les Portugais, c'est devenu quoi, putain? Des carreleurs, con. On est devenus des merdes, c'est la réalité. Les Français, c'est pareil. Les Français, maintenant, ils sont connus pour faire du French shopping en Australie, c'est-à-dire, en fait, voler des trucs. Voilà. On est connu pour envoyer nos Arabes en Thaïlande. C'est ça, la France, aujourd'hui. Notre manière de rayonner internationalement, c'est nos terroristes et nos maghrébins de banlieue qui partent en Thaïlande. Tirer un coup avec des ladyboys. Voilà, c'est ça. La France est connue pour ça, aujourd'hui. Voilà. Mais c'est triste. Putain, c'est triste, quand. Oh, l'Espagne, c'est Undo Stress. Depuis l'an 2000, quand. Alors qu'avant, jusqu'à Franco, c'était c'était des trucs intéressants. Bon, on a été Sergent Garcia à un moment au Mexique. C'est pas très reluisant. Mais merde, quoi. Putain, les Portugais, vous avez fait le tour de la Terre avec Magalhães. Magellan. Depuis Ponte da Barca, là. Bon, bref. Bon, les amis, réfléchissez à ce que je viens de dire, hein, d'accord. Putain, mais même en plus, même si vous êtes pas européen, en fait, même si vous êtes, par exemple, une des plus grandes victoires qu'il y a eu au Sénégal contre les esclavagistes musulmans, c'était le mandjak du Sénégal. C'était, attendez, j'ouvrais une fenêtre, comment je la ferme? Merde. Voilà, attendez, ouais, excusez-moi. Les mandjaks du Sénégal, donc qui sont entre la Guinée-Bissau et le sud du Sénégal, c'est eux qui ont mis une branlée monumentale aux esclavagistes arabes. Donc même dans vos pays africains, le seul pays africain qui n'a jamais été colonisé, c'est l'Éthiopie. C'est un pays chrétien. Et c'est pas les Blancs qui ont amené la foi chrétienne en Éthiopie. Les Éthiopiens sont, avec l'Arménie, les deux plus vieilles nations chrétiennes. D'accord ? Et eux, ils ont jamais été mis à genoux. Tous les pays autour ont été mis à genoux. Les Éthiopiens qui sont chrétiens n'ont jamais été mis à genoux. Voilà. Donc, si vous voulez, à un moment, je veux dire, les solutions, elles sont là. L'Amérique du Sud n'a jamais été aussi puissante qu'avec les mouvements bolivariens qui ont fondé les grandes nations sud-américaines. Et c'était des, cathos. Bon, ils étaient francs-macs quand même. Hein. Il y en a beaucoup qui étaient francs-macs. Mais le peuple, lui, était, le peuple était extrêmement chrétien. Aujourd'hui, le Salvador a été sauvé. Dans toute l'histoire du Salvador, jamais le Salvador a été aussi tranquille et prospère que depuis que Nayib Bukele a consacré le Salvador à la Vierge Marie. Parce qu'il l'a dit, ça. Il a consacré le Salvador à la Vierge Marie. Voilà. Et aujourd'hui, le Salvador est dans le top 3 des pays les plus sûrs au monde. Tu as plus de risques de te faire agresser en Corée du Sud, d'accord, qui est ultra-industrialisée, qu'au Salvador. Ça, c'est grâce à Nayib Bukele, le gros cato. Donc, à un moment, vous pouvez vous raconter ce que vous voulez. Si vous voulez que l'ordre revienne en France, il va falloir qu'on redevienne des Français. C'est-à-dire des mecs des terres et catholiques, comme nos ancêtres. Comme nos ancêtres, les amis. Voilà. Je sais que c'est le serment, je sais que certains d'entre vous, ils en ont plein le cul d'entendre parler de ça, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, je fais des podcasts que parce que j'ai un devoir de recristianisation. Il est là, mon travail. Raconter des blagues, je le fais. Je vous ai fait un podcast Clash l'année dernière. À un moment, faut que je refasse un petit peu de pastoral et d'évangélisation, là. Parce que je veux pas ressembler aux bardéliens et aux fils de pute qui passent leur temps à commenter sans donner aucune perspective civilisationnelle. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je vous fais pas 3 podcasts par jour. Par contre, il y en a un par semaine et on va à l'essentiel. On rigole et tout, on va à l'essentiel. Voilà. Alors, j'aurais pu aborder le Moyen-Âge de manière rigolote et la Renaissance. Oui, on a du Kiri autour du Sgeg et on trousse des servantes sur la table. Voilà, oui, d'accord, c'est rigolo. Mais à un moment, il faut que je vous parle des cathédrales et du Gréco, si tu veux. Et de Velázquez. Là, je suis allé à Tolède, j'en ai pris plein la fif. Mais vraiment, tu te dis, putain, les mecs, ils faisaient des guerres contre les Turcs, mais qui étaient ultra assassines, avec des coups de boulet qui arrachent le bras de Cervantes et compagnie, tu vois. Enfin, c'était des trucs pas rigolos. T'attrapes le scorbut. Enfin, c'est, tu te files contre des janissaires. Tu rentres à la maison. Le truc qui te fait du bien, c'est d'aller te recueillir sur le pavé froid de l'église. Bon, mais les mecs avaient des plaisirs simples. Mais par contre, ils bâtissaient des civilisations complexes. Nous, on a des plaisirs complexes, on bâtit des civilisations de simplets, quoi. Donc à un moment, faut se poser les bonnes questions. Et ça vaut pour les orthodoxes. Hein. Ça vaut pour les orthodoxes. Hein. Les pays orthodoxes, nos amis slaves que je salue, ils ont fini par retrouver de la souveraineté nationale et repousser les Turcs grâce à des champions qui étaient orthodoxes, y compris les Albanais musulmans. Skanderbeg qui a sauvé et libéré l'Albanie, c'était un orthodoxe. Voilà. Donc posez-vous des questions, en fait. Posez-vous des questions tous. Enfin bref, je vous embrasse. Hein, je vous dis à très bientôt. C'était le podcast numéro 51. Et je vous dis à la semaine prochaine, les amis, vive la France, vive le roi et vive notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.